Et si on sort là, ça fait déjà ça fait du bruit, mais si on sort ça fait encore plus de bruit.
Oui, on va voir.
Ah oui.
Impressionnant. Je sais pas si on m'entend, mais on est devant un puits géothermal. La vapeur sort directement des entrailles de la terre, ce qui fait que ça vibre, le sol autour de nous vibre, et qu'il y a cet énorme nuage blanc qui sort à haute pression et qui va immédiatement dans le nuage blanc du ciel. Ça ressemble à une espèce de gros robinet de chantilly qui sort à toute vitesse, sauf que c'est une chantilly qui pue atrocement l'œuf pourri et le soufre. Et vraiment, ça cache le soleil. Et ça cache aussi, ce qui est amusant, parce que c'est le raccourci, ça cache la ligne haute tension qui est juste derrière. Donc on voit les fils de la ligne haute tension qui sortent du nuage de vapeur, comme un résumé de cette énergie et de cette électricité géothermale renouvelable, ici en Islande.
Grillés, brûlés par le soleil et la sécheresse.
The global warming and that and a lot of it's a hoax. It's a hoax.
We are in the beginning
of our planet.
Mass expansion.
Great again.
We're fucked.
Je reviens du monde d'avant.
Imaginez le monde d'après.
Journal de bord. D'un monde qui fond.
The whole place is burning.
Our technology can be used to go backwards, not only to stop climate change, but to reverse climate change.
Épisode 17.
There are ways to act. So we can act and we can do something about it. We want to spread this word and we want others to join us.
De l'Islande au Brésil, des volcans à l'Amazonie, comment stocker le CO2
d'un monde à l'autre,
Guy Vanctil, sur France Inter,
avec ceux qui refusent de se laisser couler.
Reportage sur les traces du changement climatique.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avant-dernier épisode de notre tour d'avant, un monde qui ressemble d'ailleurs de plus en plus dangereusement à notre monde d'après. Ce samedi, par exemple, est officiellement le jour du dépassement. À la date de ce 22 août, nous avons épuisé les ressources naturelles que les écosystèmes sont capables de produire en une année, ainsi que la pollution qu'ils sont capables d'absorber. En 40 ans, le seuil annuel de surexploitation des ressources naturelles a avancé de 6 mois. En 1971, ce jour du dépassement tombait le 24 décembre. Avec cet indicateur que nous allons peut-être un jour consulter aussi souvent que la météo du jour, le taux de ppm de dioxyde de carbone. Qu'est-ce que c'est ? C'est la mesure du nombre de molécules de ce gaz principalement responsable de l'effet de serre par million de parties d'air. Il n'excédait pas les 300 ppm au début de la révolution industrielle, a commencé à monter en flèche pendant les 30 glorieuses et a littéralement décollé ces dernières années en dépassant les 400 ppm en 2013. 415 est des poussières aujourd'hui et il est prévu qu'il atteindra les 450 d'ici 2030. Pourquoi je vous parle de ça? Après les glaces du Groenland qui fondent, la forêt amazonienne qui recule et l'Australie qui brûle, c'est parce que tout est lié dans notre nouvelle ère de l'Anthropocène. Nos activités et leurs effets sur la température globale, la qualité de l'air, les pollutions des sols, l'acidification des océans, le recul de la biodiversité et même l'augmentation du risque de pandémie en allant toujours plus loin dans l'exploitation de notre monde. Alors aujourd'hui, entre le Brésil et l'Islande, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se laisser faire. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre, certes, mais aussi comment retirer le CO2 en trop de l'air. Et pour ça, nous avons fait appel à Aïcha Ikamlichi, qui est chercheuse à l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, et spécialiste du captage, du stockage et de la valorisation du dioxyde de carbone. Car le CO2 est même devenu un marché prometteur qui attire les spéculateurs sur fond de crédit carbone. Alors, comme les Shadocks, un peu partout on pompe, et jusqu'à 18h sur France Inter, on se pose ces questions. Où donc allons-nous ranger le CO2 ?
Okay.
Sur France Inter. Que faire du dioxyde de carbone ?
On va parler de CO2, puisque vous le savez, c'est ce gaz qui fait tant de mal à la planète.
Il faut se rendre à l'évidence. Il y a trop de CO2 dans l'atmosphère.
Le CO2, ou encore dioxyde de carbone, ou gaz carbonique.
C'est le responsable numéro un du réchauffement climatique.
Air industriel, grande consommation, confort moderne, nous avons sollicité encore et encore les énergies fossiles.
Chaque année, 36 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, émanant entre autres de nos voitures, de nos usines et de la production d'énergie en général, sont rejetées dans l'atmosphère.
Et nous en ajoutons 1000 tonnes de CO2 par seconde.
Ce qui contribue au réchauffement de notre planète.
Désormais, chaque année, les records de température mensuelle sont battus 3 fois plus souvent que si le climat était stable.
À la fin du siècle, la température pourrait s'élever de 6 degrés et provoquer une série d'événements aux conséquences irréversibles.
Oui. Alors, une idée est née. Il faut certes réduire nos émissions d'un côté, mais aussi de l'autre, retirer une partie de ce CO2 déjà présent dans l'air.
Oui.
Oui, Aïcha El Khamchi, bonjour.
Oui, bonjour. Je travaille à l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Plus spécifiquement de mon côté, je travaille sur la thématique captage, stockage géologique du CO2. Qui a pour but de réduire les émissions du CO2.
Et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous, Aïcha El Khamchi, c'est parce qu'on se posait cette question à l'issue de notre tour du monde d'avant, où on a vu un peu partout, du Groenland au Brésil, à l'Australie, en passant par le Japon, les conséquences des activités humaines dans ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène, c'est-à-dire cette ère géologique où on voit l'empreinte des activités humaines. Et à l'issue de ce voyage, on se posait cette question, où ranger le CO2? Et c'est vraiment précisément là-dessus que vous travaillez.
Exactement. Et j'irai même plus loin, c'est pas que ranger le CO2, c'est comment s'assurer qu'il est bien rangé de manière permanente et éviter qu'il remonte à l'atmosphère. Et c'est vrai que c'est un très 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 gros travail.
Alors justement, le niveau de ppm, c'est-à-dire le parties par million, c'est-à-dire le niveau de taux de concentration du CO2 dans l'atmosphère.
Le CO2.
On est passé à 415 et des poussières,
oui.
Ou 420 aujourd'hui.
C'est exact. Et tout le monde nous dit que la limite, c'est 450. On a vraiment vu un accroissement ces dernières années. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à l'ADEME il y a quelques années, tout le monde me disait 400 ppm, c'est vraiment la limite, il ne faut pas dépasser, sinon ça va être catastrophique. Et le fait d'avoir dépassé ces 400 ppm récemment, c'est vrai que ça nous pose question sur comment va évoluer le climat. Et donc la raison principale, ce qu'on invoque, c'est le fait de brûler énormément de fossiles et de rejeter du CO2. On est à 37 gigatonnes, c'est 37 000 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises par an.
37
et
gigatonnes
en gros, ouais, c'est 37 gigatonnes. Ouais, c'est énorme.
Ça, c'est à l'échelle globale.
À l'échelle globale. En France, on est à 450 millions de tonnes. Donc, la planète en elle-même a la capacité de capter le CO2 qu'on rejette. Donc, on a la forêt, on a les océans. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle des réservoirs qui captent le carbone. Le seul problème, c'est que l'activité humaine dégage beaucoup plus de CO2 que ce que la planète est capable de capter. Ce qu'on appelle le cycle naturel du carbone. On est aux alentours de 20 gigatonnes. Donc on a un déficit important. Donc c'est pour ça que c'est maintenant qu'on doit arrêter, parce que la limite des 2 degrés, ce qu'on dit là, un réchauffement de 2 degrés en moyenne, c'est quand même 450 ppm. Et à ce rythme-là, on va y arriver très vite, Donc tout le monde dit qu'on a déjà dépassé le point de non-retour pour ces 2 degrés, mais on risque de vraiment le franchir. Parce qu'il faut quand même le dire qu'actuellement, tout le monde parle du 1,5 degré, mais on est sur une trajectoire de 6 à 8 degrés. C'est-à-dire que si on suit les modèles des climatologues, pour le moment, au rythme où on émet du CO2, en 2100, c'est 6 à 8 degrés qu'on prend à l'échelle de la planète. Donc ça peut être des températures beaucoup plus élevées ponctuellement à certaines régions. Donc on est sur cette trajectoire-là. Et l'accord de Paris, c'est quand même 1,5 degré. Donc si on veut rester cohérent avec l'accord de Paris, il faut réussir à enlever du CO2 de l'atmosphère. C'est pour ça que les scientifiques affirment que c'est vraiment l'homme qui est à l'origine du réchauffement climatique, parce que voilà, on sait que le CO2 est c'est la molécule qui permet l'effet de serre, et on connaît bien les systèmes naturels qui captent le CO2 et qui les réémettent. Et nous, on voit bien qu'on arrive en plus et on perturbe ce système en émettant encore plus de CO2.
Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
Et les sources d'émissions de CO2 dans l'atmosphère sont dorénavant connues de tous. 40% proviennent de la production d'électricité. 20% des transports, notamment routiers.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
20% de l'activité industrielle et les 20 derniers % de la consommation domestique.
J'ai besoin de changer l'atmosphère, et moi l'atmosphère, c'est toi.
Alors que la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère n'a jamais été aussi importante.
Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?
Suite de notre balade au croisement entre énergie et écologie, ici en Islande, le pays qui, rappelons-le, est une plaque tectonique à lui tout seul, puisque c'est en son centre que se rejoignent la plaque américaine et la plaque eurasienne. Et donc, du coup, c'est hautement volcanique. Et donc, du coup, énormément de ressources potentielles en énergie géothermale. Et il se trouve que, bah, justement, je suis devant la centrale géothermale Orka Náttúrunnar. Me demandez pas ce que ça veut dire. Et surtout, on la voit de loin à cause des grands panaches de fumée blanche qui balaye la vallée, une vallée où on voit que c'est des pierres volcaniques noires où poussent à peine quelques lichens, et une vallée où aussi, plus on s'approche, plus on sent cette odeur caractéristique de soufre qui fait penser un peu à l'œuf pourri. C'est là où j'ai rendez-vous et c'est là où je suis en retard.
Welcome to On Power. At On Power, we produce and sell electricity throughout Iceland. And we also provide hot water for a large section of the capital region. Once you have listened to the presentation, you will be met by your supervisor.
Je m'appelle Thomas Ratoui, je suis ingénieur réservoir à Reykjavik Energy.
On est où là? Parce que là, c'est des grands couloirs, on entend toujours ce bruit de turbines, il y a des tuyaux partout.
Ça, on est à la centrale géothermique de Hellisheiði, qui est une des plus grandes centrales géothermiques au monde.
Hellisheiði.
Hellisheiði, oui. Donc ça produit à peu près 300 MW électriques d'électricité et 150 MW d'énergie thermique qui va apporter de l'eau chaude à Reykjavik.
Bon, et alors voilà. Et là, il faut qu'on fasse la petite vidéo de sécurité, s'inscrire. Il faut que je mette mon nom et tout ça, là.
Oui.
We are all connected to nature and how we conduct ourselves is extremely important.
Nous sommes tous connectés à la nature et notre comportement est essentiel.
Our goal is that conditions are in the same state when we leave a project as when we began.
Notre objectif est de laisser les lieux dans le même état qu'à notre arrivée.
In the unlikely event of a gas leak,
dans le cas improbable d'une fuite de gaz,
the alarm will sound and a blue light will illuminate the space.
L'alarme se déclenchera et une lumière bleue s'allumera.
Make your way to a collection.
Dirigez-vous vers la zone de sécurité et ne rentrez pas dans la centrale avant les consignes de sécurité.
Keep safety in mind during your stay.
Veillez à votre sécurité pendant votre visite.
Returning home safely to loved ones and family is the most important thing of all. Together, we have a responsibility to each other.
C'est sûr, moi j'ai envie de retrouver ma famille en bonne santé, donc je vais suivre les indications de sécurité qui m'ont été gracieusement données par la compagnie. Un casque
et des lunettes.
Très bien. Alors on est équipé et on passe des contrôles de sécurité. Et là, il y a des tuyaux, des turbines, des canalisations et des nuages. Alors ça ressemble à de la fumée, mais c'est pas de la fumée.
C'est de la vapeur d'eau.
Et c'est très joli parce que voilà, ça fait comme si des nuages sortaient de terre. Et là, on est juste derrière la centrale. Alors expliquez-moi en gros comment ça marche une centrale géothermale pour un béotien comme moi.
En centrale géothermale, on produit de l'eau chaude entre 280 et 320 degrés par des puits. On amène ça à la surface. On va séparer cette eau chaude en vapeur et en eau liquide. La vapeur, on va faire tourner des turbines, ce qui va créer de l'électricité. Et cette vapeur ensuite va se condenser en eau et on va réinjecter tout ça dans le sous-sol.
Pour le coup, c'est une énergie 100% renouvelable.
Oui, 100% renouvelable, tant qu'on ne produit pas trop d'eau. Il faut toujours être en équilibre avec le système naturel.
Je reviens du monde d'avant.
Et dès qu'on sort,
épisode 17,
on entend le bruit des turbines.
Où ranger le CO2?
Près de 20% de l'électricité ici produite en Islande provient de puits comme celui-ci.
C'est ça. Cette centrale, c'est une des plus grandes au monde. Et il faut, pour apporter de l'eau chaude à cette centrale, il faut une vingtaine, trentaine de puits ouverts en permanence. Si on fait attention à ce qu'on fait, c'est complètement renouvelable.
Donc voilà, ça c'est le côté, c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne pour polluer moins en produisant de l'énergie. Vous produisez de l'énergie sans énergie fossile, sans empreinte carbone ou presque.
C'est ça, c'est la géothermie, El Kishadi, ça va produire à peu près 20 grammes de CO2 par kilowattheure. Et si on compare ça avec par exemple du charbon qui a 950 grammes par kilowattheure, ou même la moyenne de production d'électricité américaine est à peu près à 450, on peut déjà voir que la géothermie est déjà très très propre.
Ah oui, il y a cette odeur, c'est ça le...
Ça, c'est cette odeur de soufre, cette odeur d'œuf pourri.
Ah, clairement, ouais. Ah oui, plus on s'approche, plus c'est fort, c'est capiteux quoi.
Donc là on peut voir, on est à 2,5, 8,4, 21, maintenant il faut reculer.
Ah ouais, tout d'un coup c'est monté là, quand on s'est approché.
C'est monté, ouais.
Il y a plusieurs dangers autour de la centrale, principalement dû au gaz. Le sulfure d'hydrogène est un gaz naturel qui peut affecter le système respiratoire. À de fortes concentrations, le sulfure d'hydrogène peut être très dangereux. Et il faut donc faire très attention, car il peut s'accumuler autour des bâtiments. Votre superviseur est équipé d'un détecteur.
Que ça fait quoi le...
À très haute concentration, on peut perdre connaissance et mourir dans les minutes. Mais ça, c'est à très très haute concentration.
On va éviter. Là, on est à combien?
Là, on est à 12 TPM. 4,5.
4,5. Oui, il suffisait de faire quelques pas.
C'est ça.
Bon, bah moi qui voulais faire une ambiance de la turbine, on va s'en abstenir. Mais déjà, imaginez en son, ça ressemble à des réacteurs, en fait.
C'est ça.
Si le monde veut respecter l'accord de Paris, il faudrait que le pic mondial de pollution ait lieu en 2020, avant que les émissions de gaz polluants ne régressent. Mais ce plafond risque de ne pas être atteint avant 2030, certainement trop tard pour enrayer les conséquences du changement climatique.
Je suis scandalisé, nous dit le chef d'État, au dernier sommet sur ces sujets. Mes déclarations ont fait sensation.
Si on veut déposer un projet de loi, soyons prudents, c'est un sujet brûlant.
Faut pas non plus faire peur aux investisseurs. Le réchauffement doit pas empêcher la croissance. Je dois satisfaire l'envie des actionnaires. L'installation d'une usine de retraitement pourrait m'obliger à délocaliser ce monde et sans scrupules. La concurrence est dure.
Pas de planète sans casser de CO2.
Si c'est pas toi, si c'est pas moi,
on fait pas de planète sans casser de CO2.
Qu'est-ce qu'il dit le monsieur?
Pas de planète sans casser de CO2.
Sur France Inter, je reviens du monde d'avant.
Et si nous avions une technologie pour arrêter le changement climatique? On appelle ça Direct Air Capture, en français la capture dans l'air.
Give Antil, sur France Inter.
Alors reprenons un instant le cours de notre élaboration. Parce que pourquoi on est venu là, à part s'extasier devant ces centrales géothermiques qui, avec ses barrages, permettent à l'Islande de bénéficier d'énergie 100% renouvelable, ce qui est très enviable pour nous, mais malheureusement pas réutilisable et pas renouvelable partout, puisque l'Islande est de ce côté-ci bénie des dieux par ses ressources telluriques. Mais si on veut reprendre donc le tour de notre réflexion sur la décarbonisation de l'atmosphère, c'est parce qu'en Islande se mène une expérience menée par une société suisse, Climeworks, qui propose, contre monnaie sonnante et trébuchante, de fixer le carbone sous terre, pomper le CO2 dont nous saturons notre atmosphère pour en faire de la pierre sous les geysers.
Le but de Climeworks est de capturer 1% des émissions mondiales de CO2 d'ici 2025.
Climeworks.
Pour enlever le carbone de l'atmosphère, vous avez besoin de deux choses. Une machine qui filtre le CO2 de l'air et un endroit sûr où l'entreposer de manière permanente. Et ici, en Islande, vous pouvez l'injecter dans la roche basaltique où il va réagir et devenir du carbone solide 1 km sous terre. Quand on y pense, tout le CO2 dans l'atmosphère vient de sous terre, des carburants fossiles et du gaz qu'on a extrait. Eh bien nous, on le remet sous terre une fois utilisé.
Notre technologie permet de revenir en arrière, pas seulement d'arrêter le changement climatique, mais de l'inverser. Le changement n'arrive qu'en montrant des solutions. Il y a des moyens d'action. On peut agir et faire quelque chose. C'est le message que l'on veut transmettre pour que d'autres nous rejoignent. ClimeWorks.
Voilà ce qui est existant ici en Islande. Plus seulement produire de l'électricité sans carbone, mais récupérer le carbone que l'homme, du fait de son activité industrielle, à rejeter dans l'air et rejette toujours davantage dans l'air. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est tout à fait ça. C'est une entreprise suisse qui a développé la technologie ClimeWorks qui permet d'attraper le CO2, le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour ensuite s'en débarrasser.
Alors ça marche comment ?
Alors d'un côté, l'air qui est riche en dioxyde de carbone arrive d'un côté. Il y a un filtre au milieu. Le CO2 va être attaché par ce filtre. Et de l'autre côté, l'air appauvri en CO2 ressort. Là, on est devant ce qui, par là où l'air va rentrer.
Ah voilà, ça c'est le « out of thin air ». C'est pas très gros, hein, ça ressemble à un container.
C'est ça. Non, c'est une des deux grosses qualités de ClimeWorks, c'est que c'est petit et c'est très modulable. Donc on va pouvoir les superposer, on va pouvoir faire ça à petite échelle ou à grande échelle, et il suffira juste d'en rajouter.
Allez, on voit ClimeWorks, « capturing CO2 from air ». ClimeWorks. C'est comme la climatisation qui travaille.
C'est ça.
Capturer le CO2 de l'air. Et juste sur le côté, on voit une espèce de ventilateur, c'est ça ?
C'est ça.
C'est une prise d'air ?
C'est juste une grosse prise d'air où au centre, il y aura ce filtre qui va capter le CO2. Là, ça marche en ce moment. Donc, c'est actuellement en train d'attacher, de fixer le CO2 et de relâcher de l'air plus propre.
Si je me mets de l'autre côté, par exemple, là, je vais avoir de l'air pur ?
C'est ça. De l'air appauvri en CO2. De l'air plus propre.
On va faire l'interview du bon côté, alors plutôt que de se mettre du côté où on bouffe le CO2 des avions qui passent au-dessus à Keflavik. Et là, je ne sais pas si vous entendez, si vous sentez l'air. Vous voyez, ça souffle pas mal, parce qu'on est derrière un énorme ventilateur. Et là, c'est de l'air. Alors, je vous avoue que sur fond d'hydrogène sulfuré, de ce champ de lave géothermale, on sent pas vraiment la différence. Mais là, vous me dites que c'est de l'air pur. Enfin, c'est du bon air, ça.
C'est du bon air, oui.
C'est de l'air d'avant l'industrialisation humaine.
C'est ça. C'est l'idée.
Le captage et le stockage du CO2 consistent à récupérer le dioxyde de carbone à la source et à le stocker dans le sous-sol.
L'idée, la voilà. L'air est pompé dans une machine, une sorte d'aspirateur géant qui piège le CO2 grâce à des filtres.
ClimeWorks, l'installation permet d'aspirer le CO2 contenu dans l'air ambiant.
L'entreprise a commencé petit, mais aujourd'hui, ils sont opérationnels. Voici leur usine en Islande. 1000 tonnes de CO2 en moins dans l'air par an. Le dioxyde de carbone est ensuite injecté sous terre dans la roche. Et en 2 ans, il se transforme en pierre, où il restera des millions d'années.
C'est-à-dire qu'on prend de l'air et on en fait de la pierre.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est la méthode la plus sûre pour stocker le CO2. C'est stable sur des centaines de milliers d'années, sur des millions d'années. Le carbone, il va réagir tout d'abord avec la roche volcanique. Ça va libérer du calcium, du magnésium, du fer. Et ces atomes vont ensuite s'accrocher avec le dioxyde de carbone pour former des roches, carbonatées comme de la calcite. Et ensuite, ça va prendre à peu près deux années pour fixer le CO2 en roche. Donc c'est un phénomène très très court. Et comme ça, le CO2, il va être fixé de manière complètement pérenne. Et ce qu'on fait, c'est on reproduit ce qui se passe naturellement dans la nature.
C'est une technologie brevetée ou tout le monde peut le faire ? Est-ce que c'est humanitaire, écolo, nous allons sauver l'humanité, ou est-ce que c'est une entreprise commerciale ?
Ça fonctionne à titre commercial, ça fait depuis quelques mois où on injecte le CO2 Climeworks dans nos roches basaltiques islandaises. Donc c'est une technologie qui marche. Pourquoi une entreprise suisse est venue ici pour tester leur module ? C'est qu'ils se sont dit, si ça marche en Islande, ça peut marcher partout. Parce que l'Islande a quand même un climat très rude. Il peut y avoir du soufre, il fait froid, il y a de la neige, il y a du vent. Donc ils se sont dit, si ça marche ici, ça peut marcher partout.
In order to achieve the 2 degree global warming
pour limiter la hausse des températures à 2 degrés,
more than 10 gigatons of CO2
nous devrions, dès 2050, retirer de l'atmosphère plus de 10 gigatons de CO2 chaque année.
Climeworks is the worldwide first company that is commercially capturing CO2
Climeworks est la première compagnie au monde qui capture le CO2 de l'air.
It is our vision to capture 1%
Notre vision,
of global
c'est de capter 1% des émissions globales de CO2 d'ici 2025.
This is something that global economy can manage.
C'est quelque chose que l'économie globale peut gérer.
C'est-à-dire qu'on peut payer maintenant pour compenser, faire leur compensation carbone. On pouvait acheter des arbres, faire planter des arbres. Mais on peut aussi faire des roches dans les sous-sols.
C'est ça.
Voilà, you can now pay to turn your carbon emissions to stone. Depuis juin, voilà, la compagnie Climeworks a commencé à offrir à ses clients une option pour s'acheter soi-même sa compensation carbone. On peut choisir de payer 7 euros par mois pour stocker 85 kg de dioxyde de carbone par an, ce qui équivaut à peu près à 700 km avec une voiture à essence. On peut payer 21 euros par mois, qui me permet de stocker 255 kg de carbone par an, ou bien 49 euros par mois, qui nous permettront de convertir 600 kg de dioxyde de carbone en roche carbonatée. Et puis on peut aller jusqu'à 2000 euros par mois pour faire 25 tonnes de carbone. Alors après, je me demande, capturer le carbone de l'atmosphère pour le stocker, est-ce que c'est pas aussi une manière de continuer à en émettre ? Est-ce que ce n'est pas aussi un blanc-seing pour continuer à polluer ?
C'est une très très bonne question. Mais si on se base sur le rapport du GIEC de cette année, qui recommande, si on veut éviter un réchauffement climatique à moins d'1,5 degré, il faudra
avoir... déjà mal barré entre nous.
Très mal barré. Il faudrait avoir des émissions négatives. C'est-à-dire que même si demain on arrête tout ce qui est émissions de carbone, il n'y a plus de voitures, plus d'avions, plus rien, il va quand même falloir se débarrasser du CO2 qu'il y a déjà dans l'atmosphère. D'où l'idée d'enfouir le CO2 dans le sous-sol est vraiment une solution valable et qui marche aujourd'hui. Et
est-ce que ça coûte cher ?
Non.
La technologie ?
En ce moment, c'est à peu près 25 US dollars par tonne de CO2. Donc c'est moins que les quotas en bourse.
Oui, parce que maintenant, c'est devenu objet de spéculation aussi.
C'est ça.
Et on peut spéculer sur tout. Et il y a aussi, en bourse, on peut spéculer aussi sur les catastrophes naturelles. C'est les cat bonds, ça s'appelle.
Ah bon ?
Catastrophe bonds.
Alors, on arrête tous nos efforts pour réduire nos émissions ? Eh bien, c'est évidemment la principale critique opposée à la capture du CO2.
C'est bien le petit bouton. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire, ce mot-là ?
Nederlandpur. J'imagine arrêt d'urgence.
Donc, on ne va pas appuyer sur le bouton. Et juste au-dessus, il y a une petite lumière verte.
C'est en train de fixer le CO2 en ce moment.
Bon, allez, je vais me prendre j'arrive, je vous retrouve tout de suite, je vais me prendre une petite bouffée d'air pur et je reviens. Je me mets vers le ventilateur et je pense aux auditeurs qui sont en ce moment sur le périphérique à Paris ou sur l'autoroute ou bien à côté d'une belle usine ou d'un incinérateur quelque part dans une zone industrielle qui respire un air qui est l'air qu'on respire tous, c'est-à-dire un air de plus en plus chargé de carbone. Cette air de l'époque du réchauffement climatique, et ben moi, je suis en train de respirer à l'arrière d'une turbine, ce qui est complètement absurde, à l'arrière d'un énorme ventilateur, un air qu'on me dit plus pur. Je me sens mieux. J'ai les poumons plus décrassés.
Les poissons crevés dans les mers, pollués. Et les hommes sont asphyxiés par l'air pollué. Les
qu'il faut faire pour exister. Hey. Quand la terre tout entière est polluée. Hey. Les hommes sont complètement dépassés. Hey. Mais dites-moi ce qu'il faut faire pour exister.
Oui, souvenez-vous, avant de rouler en Harley-Davidson, Johnny Hallyday a aussi été un hippie écolo. En tout cas, on va retrouver Aïcha El-Kamlichi de l'ADEME, donc l'agence en charge de la transition environnementale, de la transition écologique, qui va peut-être, elle, nous apporter un autre son de cloche. Parce que je vous avoue, j'ai été un peu baba et bluffé, moi, au milieu des geysers, et un peu grisé par l'air frais qu'on y respire. Sauf que peut-être que ce n'est pas aussi simple que les communicants de Climeworks veulent nous le faire croire, et que ce qui les anime le plus, ce n'est peut-être pas que la purification de notre atmosphère, mais aussi d'être présent sur un nouveau marché, celui des crédits carbone et de la spéculation, toute boursière et digne du monde d'avant, sur ce qui nous arrive et la catastrophe en cours.
Sur France Inter, je reviens du monde d'avant. Épisode 17. Que faire du dioxyde de carbone ?
Alors oui, c'est vrai que ces acteurs-là, leur argument, c'est de dire, comme on a une société carbonée, que la transition va être vraiment très difficile et très longue, il faut réussir à enlever du CO2 de l'atmosphère. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que ces industries privées viennent et vendent du rêve en disant, vous inquiétez pas, même si vous continuez à émettre, on pourra toujours enlever le CO2 de l'atmosphère pour le remettre dans le sous-sol ou pour le réutiliser pour faire des produits ou du carburant. Le seul problème, c'est ça va consommer énormément de ressources et d'énergie. Et donc l'argument de Climeworks, c'est de dire, comme ça sera de l'énergie renouvelable, c'est pas un problème. Donc c'est vrai que ça pose question sur l'utilisation de cette énergie renouvelable. Est-ce qu'on l'utilise pour continuer à utiliser du fossile, ou est-ce qu'on arrête le fossile et on substitue réellement cette énergie carbonée par d'énergie décarbonée ?
Oui, ce que vous dites, c'est qu'il y a un côté un peu absurde à consommer de l'énergie renouvelable pour pouvoir continuer à consommer de l'énergie non renouvelable.
Exactement. Bon, après, ils ne le présentent pas comme ça.
Ah non, ça on est d'accord. C'est pour ça qu'après avoir vu les communicants de la société Climeworks en Islande, c'est pour ça que je fais appel un peu à vos lumières. Vous, votre travail consiste justement à étudier toutes les options possibles sur ce domaine de capture de carbone.
Parce que par exemple, si on prend l'argument de Climeworks, c'est de dire les émissions d'agriculture, c'est ce qu'on dit, c'est les émissions qui vont être les plus difficiles à réduire. Comme je disais, c'était un tiers au niveau mondial, hein. Donc voilà, ça veut dire changer totalement notre mode d'alimentation, plus d'élevage ou autre. Et donc leur argument, c'est de dire, au lieu d'avoir une rupture vraiment brusque dans notre mode d'alimentation, on peut compenser ces émissions-là par aller capter du CO2 de l'atmosphère et l'enfouir dans le sous-sol ou refaire des produits. Et donc c'est vrai que leur argument, c'est de dire, on pourra changer le transport, on pourra peut-être décarboner l'industrie. Et quand je dis ça, c'est en étant très très optimiste, c'est vrai que ce qu'ils vendent, eux, au gouvernement, ils vont voir vraiment les États en leur disant, vous aurez besoin de compenser de toute façon. Donc commencez tout de suite. Bon, eux, ils partent du principe que leur système va être mis en place quand on aura réussi à avoir de l'électricité renouvelable partout à l'échelle planétaire.
Ouais. Vous me donnez 2 secondes, j'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi, je suis revenu, c'est le voisin qui avait sorti sa tondeuse, ça le faisait pas. Voilà encore des émissions carbone en plus, quoi. Ouais, donc c'est très intéressant parce que, Aïcha El Khamlichi, ce que vous nous racontez justement, ce qu'on nous a raconté sur ces formidables visites qu'on nous a faites avec toutes les dernières technologies et plein de promesses, et c'est vrai que la société Climeworks, comme d'autres, communique à plein régime, trouve des investisseurs et étendent leurs activités, c'est que ça ressemble dangereusement à des moyens de continuer le vieux système tel qu'il était, avec des rustines plus ou moins écolo.
Oui, mais ce qui est peut-être plus inquiétant, je trouve, c'est que comme on n'avance pas dans cette transition, leur argument que je trouve recevable, c'est de dire que de toute façon, on aura besoin d'eux à un moment ou à un autre si on veut tenir cette limite des 1,5 degré. Et puis, il y a toutes les discussions autour du permafrost, etc., ou des quantités gigantesques de méthane qui avaient été piégées il y a des millions d'années, qui risquent de se retrouver libérées, etc. Donc, c'est vrai que les climatologues parlent toujours d'un enchaînement qui peut être vraiment dramatique. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'arrêter les émissions le plus rapidement possible, quoi.
Et une dernière image, en tout cas, s'il en fallait encore une, c'est cette semaine, pas plus tard que cette semaine, les spécialistes du Groenland qui disent que ça y est, c'est foutu pour les glaces du Groenland, qui maintenant, quoi qu'il arrive, si on arrêtait aujourd'hui d'émettre du CO2, aurait fondu dans un avenir proche, de toute façon.
Exactement. Oui, ça c'est lié vraiment à l'effet du CO2 qui a un effet de très long terme. C'est-à-dire que le CO2, une fois qu'il a été émis, il a vraiment un impact, c'est sur 100 ans. Donc c'est pas anodin, du CO2 qu'on émet aujourd'hui, il aura encore un impact dans 100 ans. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a besoin de trouver des systèmes qui permettent de capter le CO2. Et donc avant de passer au système de Climeworks, c'est vrai qu'on a nos forêts, hein, qu'on est en train de détruire. Et l'argument, c'est de se dire, mais pourquoi aller dépenser des sommes faramineuses dans des systèmes technologiques qui refont ce que fait la nature en beaucoup plus efficace, parce que une forêt, ce n'est pas que capter du CO2, ça apporte énormément, ça permet la biodiversité, ça participe aussi au système pour l'eau avec la formation des nuages ou autre. Donc c'est vrai que ce qui est étrange, c'est de se dire qu'on sait qu'on a nos systèmes actuels, les forêts primaires et même les forêts en Europe, hein, qu'on est en train de couper et de détruire, et on nous vend du rêve avec le système technologique Climeworks. Alors que faire ça, avoir des mesures pour protéger les forêts et empêcher qu'on continue à les faire disparaître, on n'en est pas capable.
Et puis je vous le disais, la calotte glaciaire risque bel et bien de disparaître à tout jamais. C'est même désormais une quasi-certitude pour des experts qui ont rendu public une étude aujourd'hui. Cette calotte glaciaire, elle n'arrive plus à se régénérer. Même une inversion du changement climatique n'y changerait rien.
Depuis le début des années 2000, elles fondent de plus en plus et les chutes de neige ne sont pas suffisantes pour la reconstituer. On s'approche du point de non-retour.
Effectivement, on n'est pas loin de ce point de non-retour.
Les efforts entrepris pour faire baisser les émissions de CO2 sont insuffisants.
Donc si cette calotte glaciaire doit fondre, il faut continuer à lutter contre le réchauffement climatique.
Faute de quoi les spécialistes sont formels. Le réchauffement de la planète entraînera des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes. Tempêtes et sécheresses de plus en plus fréquentes.
Enfin, un peu de fraîcheur et de verdure. Aussi absurde que ça puisse paraître, voilà des heures et des heures qu'on roule dans l'ouest de l'Amazonie brésilienne et qu'on voit, pour ainsi dire, que des champs pelés avec des vaches à l'intérieur. Et d'un côté et de l'autre de la route, on voit presque pas d'arbres, presque pas de verdure, quelques palmiers de loin en loin. Et là, on arrive en fin de journée dans un endroit avec plein de plantes, plein de végétation, à perte de vue, des petits pots, des petites pousses d'arbres et de plantes qui sont en train de pousser. Et voilà une tentative pour essayer de reverdir cet état du Rondônia dans l'ouest de l'Amazonie où, au cours des dernières décennies, plus de la moitié de la surface forestière a disparu. Et ici, c'est une initiative portée par l'ONG locale Rio Terra pour replanter, reverdir et capter le carbone. Parce que c'est pas simplement pour la beauté et pour le paysage, mais c'est aussi pour le bilan carbone et que le meilleur moyen de capter le carbone est, semble-t-il, de planter des arbres.
Yeah, my name is Alexis. I work here in Amazon with the Rio Terra for 20 years.
Alors, je m'appelle Alexis Bastos et voilà 20 ans maintenant que je travaille pour cette ONG qui s'appelle Rio Terra.
We have different kind of actions we can do. For example, now we are running a project with Reforest Action.
C'est pour ça qu'on lance plein de projets nous ici, par exemple avec l'organisation Reforest Action.
We are planting a lot of trees here in Amazon, more than 100,000 trees.
On a lancé un projet pour reboiser cette partie de l'Amazonie, de planter plus de 120 000 arbres dans l'état du Rondônia.
Almost everyone knows now that planting trees are the best way to remove carbon from the atmosphere.
Maintenant, c'est à peu près acquis à tout le monde que de planter des arbres est le meilleur moyen de fixer du carbone.
So if we protect the forest, we avoid the emissions. We have credits for this carbon and we can sell it on.
Et c'est vraiment un système de compensation carbone. En plantant des arbres, on a des crédits carbone qu'on peut revendre dans le monde entier. Et alors, qui les achète, par exemple?
A lot of companies from Europe, companies from Brazil.
Des grandes compagnies multinationales d'Europe, du Brésil.
But our objective is more ecological than a market we are looking at.
Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est plus des programmes écologiques qui aillent plus loin que juste le marché du carbone. Oui, parce que ce marché de carbone, ça part d'une bonne idée, mais on ne peut pas s'empêcher d'y voir parfois une contradiction. Dans le fait de planter des arbres, c'est très bien. Vendre des crédits carbone, c'est très bien. Mais si c'est pour permettre à des grandes multinationales de continuer à produire comme elles le font tout en se tâchant une bonne conscience, ça peut poser aussi des questions d'efficacité et ou tout simplement de morale.
Yeah, anything is perfect in this world.
Rien n'est parfait dans ce monde.
But look, the benefits that this kind of markets can bring for local population.
Mais ce qu'il faut voir, c'est les avantages que ce type de marché carbone, de compensation carbone, peut apporter aux populations locales.
Of course, it doesn't change maybe the way people is producing outside Brazil or these big companies.
Alors oui, peut-être que ce marché du carbone ne change pas la manière dont les multinationales produisent et créent de la valeur en dehors du Brésil. Mais ici, à l'échelle locale, ça change énormément la vie des gens.
So, we have work. For everyone.
Donc tout le monde a du boulot pour les années à venir.
Yeah.
Et vous, en attendant, vous faites le vôtre en plantant des arbres ici dans ce coin de la forêt amazonienne pour lutter contre la déforestation.
Every year they do a lot of meetings.
Tous les ans, il y a des grandes réunions internationales.
They know what they need to do.
C'est très bien ce qu'il faut faire.
But anyone who wants to stop the way they are working. They are producing.
Mais simplement, il faut bien commencer un jour d'arrêter de produire comme on le faisait auparavant
to make a better world.
Pour pouvoir se garantir un monde meilleur et un monde viable.
Grâce à la photosynthèse, les forêts absorbent le CO2 émis sur la planète. Plusieurs types de projets de compensation carbone en lien avec la forêt se sont donc développés. Favoriser une gestion durable de nos forêts et limiter la déforestation permet de lutter efficacement contre le réchauffement climatique tout en protégeant les populations locales.
Alors justement à ce propos, Aïcha El Kamlichi, une autre solution au captage du carbone, c'est effectivement de planter des arbres.
Oui, 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 c'est ce qu'on appelle ces compensations carbone.
Alors est-ce que c'est la panacée que ça a l'air d'être ?
Alors c'était pas une question de panacée, l'aviation civile mise beaucoup sur la compensation carbone et donc notamment l'idée est de dire on va compenser nos émissions en faisant ces plantations d'arbres. Et c'est vrai que ce qui pose question, c'est de se dire notre société actuelle émet beaucoup trop de carbone, donc il faut qu'on change. Et c'est pas en plantant des arbres où on n'a aucune certitude sur leur devenir, hein, parce que On parlait des arbres et de la forêt, ils souffrent autant que les autres écosystèmes du changement climatique. Hein. Les arbres sont en train de mourir à travers la planète, donc ça c'est vraiment un constat qui est fait, et ça a été illustré en Australie avec les grands incendies qu'ils ont eu, les incendies gigantesques, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les arbres étaient morts. Donc non, c'est vrai que la question qui se pose avec planter des arbres, c'est de se dire, est-ce que ces arbres vont de toute façon pouvoir grandir et faire leur rôle de captation de CO2 d'ici 5, 10, 20, 30 ans, en sachant qu'on perturbe le système et que même les arbres souffrent et la forêt souffre du changement climatique.
C'est ça. D'autant que si j'ai bien compris, pour pouvoir compenser les émissions, il faudrait qu'on couvre à peu près deux fois la surface de la Terre d'arbres pour pouvoir avoir un début d'effet.
Oui, ben oui, parce que c'est, on est dans un système où on émet tellement que le fait de vouloir compenser avant même d'attaquer la réduction, ça semble absurde. On dit avant d'aller vouloir stocker des millions et des millions de tonnes de CO2, il faut peut-être commencer par réduire tout ce qui est évitable en termes d'émissions. Et après, ce qui ne l'est pas, on a cette technique-là pour la mettre en place et pour réduire les émissions. Mais aller vouloir planter des arbres alors qu'on est, ce que je disais, à 37 gigatonnes, ça semble quand même incohérent.
C'est réconfortant comme message positif de voir de la verdure et des arbres par ces temps-là, mais c'est pas ça qui va effectivement nous sortir d'affaire. Et ce que vous pointez du doigt avec vos recherches et avec l'ADEME, c'est qu'il faudra bel et bien changer de modèle, de paradigme énergétique, quoi, c'est ça ?
La meilleure énergie est celle qu'on n'a pas besoin de produire, et donc il faut vraiment réduire à la source la consommation d'énergie. Je pense aux renouvelables. La critique des renouvelables, c'est de toujours dire, c'est le même argument qu'avec les arbres. Hein. Si on veut remplacer nos centrales nucléaires, il faudra planter d'éoliennes toute la France et ça sera pas suffisant. Oui, c'est vrai actuellement puisqu'on consomme beaucoup d'électricité, mais si on arrive à réduire notre consommation, là, on peut trouver des systèmes énergétiques durables qui répondent à notre consommation.
Et là, c'est cette direction-là qu'il faudrait qu'on creuse. C'est-à-dire moins consommer, encore une fois, comme on consomme moins de produits industriels et qui produisent toujours plus de déchets, là, ça serait juste aussi moins consommer d'énergie dans notre fonctionnement, quoi.
Exactement. La grande question, c'est comment dissocier l'économie de cette surconsommation, c'est-à-dire comment réussir à trouver un modèle économique qui fonctionne. Et là, c'est vrai que c'est un très très gros travail à faire pour la société du futur. On a associé la croissance, l'économie à la croissance, et donc vraiment la richesse à la croissance. Et là, la question que posent les économistes, hein, c'est de se dire comment associer la richesse à la décroissance.
Et voilà, ça c'est le devoir de vacances pour la rentrée. C'est ça, si j'ai bien compris.
Moi, je reste sur la technologie. Après, ça reste dans une société où c'est l'économie qui prime, ça reste cher. Et pour avoir un effet, il faut que ça soit fait à l'échelle planétaire. Donc c'est vrai que c'est toujours la même question. Qui commence ? En sachant qu'on est déjà en retard en termes d'émissions.
Aïcha El Khamlichi, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'ADEME et vous y êtes en charge de captage, stockage et valorisation du CO2, direction entreprise et transition industrielle, service industrie ADEME.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon travail alors. C'est ce qu'on peut vous souhaiter.
Merci. Au revoir.
Bref, il reste encore beaucoup de travail à faire dans la recherche fondamentale, bien sûr, dans les décisions politiques aussi, mais sur nos mentalités, beaucoup. Nous qui avons été élevés avec l'idée que plus c'est mieux, qu'il n'y a pas de salut sans croissance, et que le bonheur est de pouvoir d'un clic me faire livrer le dernier gadget venu de l'autre bout du monde en porte-conteneur. Mais comme je vous le disais en introduction, peut-être qu'un jour devrons-nous à notre tour consulter le taux de CO2 dans l'air avant de sortir de chez soi. En attendant, un grand merci à Aïcha El Khamlichi de l'ADEME, à Thomas Ratoui de Climeworks en Islande et à Alexis Bastos et Felipe de l'ONG Rio Terra au Brésil. Retrouvez toutes les infos, les photos sur franceinter.fr où vous pourrez aussi vous abonner au podcast en version longue de toute la série du Brésil au Japon en passant par l'Australie. C'était Je reviens du monde d'avant et pas fâché d'être de retour au présent. Un grand merci à Clément Nouguier qui a réalisé cette émission et à Martine Abba qui l'a montée, ainsi que Monsieur Djoub pour la programmation musicale. Et on vous donne rendez-vous demain dimanche à 17h pour une dernière étape de notre voyage dans le monde d'avant en se posant pour réfléchir avec le philosophe Pierre Charbonnier à ce qui nous arrive et pourquoi nous devons changer le cours de l'Anthropocène.